d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Voilà, et nous, et Claude à la technique bien sûr, et Gilles également au micro. Nous recevons ce soir Raphaël Chevalier, qui est ancienne responsable adjointe son et vidéo dans un opéra de Paris. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Et en fin d'émission, nous recevrons donc Frédéric Forjard, qui est donc comédienne et chanteuse, qui nous parlera de son spectacle. Qu'elle fait donc en avril, nous en reparlerons en fin d'émission. Bonsoir Raphaël, en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurais d'abord dans un premier temps voulu que tu nous expliques un peu ton parcours d'intermittente du spectacle. Je crois que tu as vécu 21 ans dans le métier, des petits boulots, des petits CDD, des CDD plus longs, etc. pendant 21 ans, pour ensuite rentrer à l'opéra, donc à Paris. On ne dira pas lequel, hein, pour plus, voilà. Peux-tu nous raconter un petit peu ton témoignage sur ce que tu as vécu comme intermittente déjà, et puis un petit peu, voilà.
Oui, bien sûr. Je suis rentrée en fait dans le spectacle en partie par hasard. Je dis en partie parce que j'ai toujours été passionnée. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmenée très tôt au spectacle. À l'époque, j'habitais dans le sud de la France, donc j'allais beaucoup au Théâtre de la Criée. J'ai eu la chance de voir toute la trilogie des films de Pagnol, etc. Parce que bien sûr, c'était quand même l'environnement. Et puis de découvrir des arts exotiques, puisque à l'adolescence, j'ai fait de la danse indienne pendant assez longtemps, ce qui m'a amenée vers Paris. Et à Paris, j'ai dit à 18 ans à mes parents, écoutez, voilà, je vais faire de la danse indienne à Paris. Donc ils m'ont regardé avec des grands yeux. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire aussi des études à la fac. Donc j'ai étudié l'histoire de l'art, puis après cinéma, communication, audiovisuel. Et au détour d'accompagner une danseuse qui partait au Festival d'Avignon, j'ai découvert la Régie Son complètement par hasard et en pleine panique, continuellement tous les soirs. C'était à l'époque au Théâtre du Cheval Fou. Et à l'époque, et c'est toujours d'ailleurs, un spectacle, ça durait une heure, plus une heure de mise en place. Ça veut dire que chaque deux heures, tout de midi jusqu'à minuit, le théâtre était en mouvement continuel. Et donc tous les soirs, c'était la panique de retrouver dans les environnements où se trouvait le régisseur général, de manière à ce qu'il vienne me recâbler la console. Ça a été absolument épouvantable. Et à la suite de ça, à la rentrée de septembre, il a été question de partir au CFPTS, qui est un lieu toujours très actualisé et très très actif sur les mises à jour en fait de toute la législation et des mises à jour de la sécurité et bien sûr des métiers du spectacle, hein, la machinerie, les décors, etc., le son, la lumière, de partir faire cette formation de régisseur du son.
Et qui durait combien de temps, cette formation?
Alors, cette formation durait à l'époque 6 mois, ce qui a bien changé. Les formations, d'une manière générale, sur les métiers du son ont énormément évolué. Si je me souviens à peu près, à l'époque, il y avait surtout l'huile-lumière, ce qui ne pouvait pas vraiment être dans mon parcours, puisque je suis d'abord une littéraire, je ne suis pas vraiment une scientifique. Et ensuite de ça, il y avait bien sûr l'INA, il y avait l'école de Radio France, et puis certainement des choses plus spécifiques sur les télécoms que je ne connais pas très bien, que je ne maîtrise pas. Mais il n'y a certainement pas pléthore comme il y a aujourd'hui de toutes ces institutions privées, des BTS et de la formation au CFPTS qui également, à part pour les professionnels, dure sur 2 ans en alternance avec une partie bien sûr en entreprise et une partie au CFPTS.
D'accord. Alors pendant ces 21 ans où tu étais intermittente du spectacle, avant de rentrer dans cette formation dont tu parlais, tu étais intermittente dans quel métier exactement? Tu faisais quoi comme...
Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est à partir de la formation du CFPTS.
D'accord, oui.
Que je suis rentrée en intermittente. Donc d'accord. En fait, mon métier a toujours été la régisson.
D'accord, très bien.
Voilà.
Très bien.
Et la Régie Son a énormément évolué, hein, parce que moi, quand j'ai passé mon diplôme, c'était la fin des années 80. Aujourd'hui, on est en 2013. Oui. J'ai envie de dire, c'est un peu les 30 ans de beaucoup de choses. C'est le 30 ans de l'impulsion qui a certainement été donnée par les années longues, de toutes les structures culturelles qui ont été créées, de toutes les salles de spectacle qui ont été créées, de toutes les subventions aussi qui ont été données. Et notre métier a énormément évolué, mais également la population qui constitue en fait les techniciens et bien évidemment la Régie Son. Donc un jour, je m'étais amusée à calculer chaque année combien il y avait de jeunes qui arrivaient sur le marché du travail pour dire « je suis technicien son » ou « je suis régisseur son ». Voilà.
Et alors, combien ?
Oh, j'ai plus en tête, mais j'arrivais largement au-delà de 50 ou de 60 sur la seule région parisienne et j'étais un peu effrayée.
Et à l'époque, c'était pas beaucoup ?
Non, on n'était pas beaucoup. Donc on me dit que dans les années 80, on était à peu près 5 ou 10 000 intermittents, j'ai du mal à le croire. Et aujourd'hui, on nous dénombre entre 100 et 140 000. Je n'arrive jamais à savoir si ce sont les gens qui sont dits indemnisés, parce qu'il y a une grande ambiguïté en fait sur le terme. Qui est l'intermittent du spectacle ? Celui qui travaille dans le spectacle, comme on dit les gens du bâtiment, peu importe de savoir s'ils sont actifs, actifs c'est-à-dire salariés, ou s'ils sont indemnisés. Et je pense que c'est la même chose pour les gens du spectacle qui sont dits intermittents, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à une structure, mais qui ont la mobilité. Et à l'époque, on avait le choix de l'employeur. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore utiliser ce terme.
Très bien. Alors justement, pour construire, on va juste parler un peu des licences, parce qu'en quelques mots, c'est important, puisqu'apparemment, hors micro, tu nous disais qu'effectivement, les licences, à partir de 2000, il y a eu un changement dans la législation qui permettait effectivement à qui voulait monter une structure dans les arts, etc., pouvait le faire grâce à une licence. Mais juste avant 2000, avant cette période-là, on ne pouvait pas le faire comme ça. C'est-à-dire, comment ça se passait par rapport...
Alors, en fait, la législation qui concerne les salles de spectacle a été mise en place un petit peu comme, en fait, toutes les bases de la structure sociale française après 45. Hein, c'est après la Grande Guerre que le gouvernement va mettre en place donc un système d'obligation d'être détenteur d'une licence de spectacle vivant. Cette licence sera déclinée en 6 domaines différents et chose que je viens de découvrir il y a quelques semaines, c'est que cette fameuse licence d'entrepreneur de spectacle vivant en était exemptée tous les théâtres nationaux jusqu'en 1999.
D'accord.
Alors en 1945, il s'agissait surtout de reprendre la main sur les directeurs des salles de manière un petit peu à écarter éventuellement les personnes dites non grata d'après la guerre. Et de reprendre un petit peu le contrôle des directions. Mais j'ai quand même été très surprise de découvrir que jusqu'en 99, les théâtres nationaux n'avaient aucune obligation de passer cette formation qui dure quelques jours, hein, c'est extrêmement court, et qui permet d'avoir les bases qui stipulent les obligations d'un directeur de théâtre.
D'accord.
Oui, parce que oui, en fait, la licence, donc c'est une licence qui est accordée par l'administration, par le ministère de la Culture. Et quels critères il faut remplir en fait pour pouvoir être autorisé à diriger une salle.
Une salle. Alors en fait, on distingue 3 licences de spectacle vivant. La première licence, ce sont essentiellement pour les exploitants de salles de spectacle. La deuxième et troisième, vous me permettrez, j'ai peut-être un doute, mais il y en a une qui est surtout sur la production des spectacles. Et la deuxième, je crois, c'est sur les entrepreneurs de spectacles. C'est pas tout à fait les mêmes. Je connais peut-être un petit peu plus la première. J'ai appris donc aussi très récemment que depuis 2000, il y avait obligation pour obtenir cette licence de spectacle vivant de détenir un module sécurité. Ce module sécurité est complètement indépendant de la sécurité incendie, c'est-à-dire que c'était une formation spécifique. Et c'est réellement à partir de 2006 que le ministère de la Culture va donner des agréments à des organismes, dont le CFPTS et d'autres, l'IRMA sur Paris plus d'autres, bien évidemment il y en a plusieurs sur toute la France, pour que une personne dans la salle de spectacle soit le détenteur de ce fameux module sécurité. Ce module sécurité est un module qui dure 5 jours, 35 heures, qui coûte 700 euros ou 800 euros à quelques... à quelques modules près s'ils ne sont pas actualisés dans mes chiffres tout de suite. Et surtout, ce qui me semble un petit peu effrayant, c'est que ce module ne nécessite aucune actualisation et aucune mise à jour. C'est-à-dire que n'importe qui dans l'entreprise, qu'il soit un administratif, un technicien, au départ, c'était quand même le responsable de la structure, c'est-à-dire le directeur du théâtre qui devait détenir ce module. Et puis, il y a les dérives actuelles, à savoir qu'on se délègue en général vers celui qui est dit être le responsable de la sécurité, qui est très souvent le directeur technique.
Alors du coup, la sécurité, c'est la sécurité vis-à-vis du public, la sécurité des travailleurs. Il y a une ambiguïté là-dessus, non ?
Non, effectivement, effectivement, c'est une bonne question. On dit la plupart du temps dans les fiches de poste, le responsable de la sécurité peut être le directeur technique. Ça peut être également un responsable de la sécurité. Il n'empêche pas moins, effectivement, que la sécurité dans une salle de spectacle est dissociée en deux parties très distinctes, puisque dans un établissement public recevant du public, un ERP, on distingue l'ERT de l'ERP, à savoir la partie publique de la partie technique.
Tu veux dire la partie technique, c'est la partie saine, en fait, hein ?
Absolument.
D'accord. On va reprendre sur la sécurité. En attendant, on va écouter peut-être une petite chanson pour aérer un peu l'émission. Merci.
Mon père était prince de la Chine. Je suis née au bord d'un chemin qu'avait choisi notre Verdine.
Vous venez d'entendre donc les Saintes Marie. Donc c'est une chanson écrite par Pierre Marc Orlan, chantée par Frédéric, qui est avec nous ce soir, qui nous parlera un peu de son spectacle en fin d'émission. Donc c'est la chanson des Mauves et au Café de Paris. C'est le mardi 23 avril à 21h. C'est Gaston Couté et Pierre Marc Orlan. À l'accordéon, c'est Michel Glasgow. Voilà. Donc c'est le Café de Paris, c'est au 158 rue Oberkampf, métro Moyenne-Montant. C'est donc toujours le 23 avril. Vous êtes toujours sur Fréquence Père Pluriel, 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires. Ce soir, nous recevons donc Raphaël. Bonjour Raphaël.
Bonsoir.
Voilà. Nous allons parler, bien sûr, des conditions de travail et de sécurité dans une salle de spectacle. Hein, c'est le principe de l'émission aujourd'hui. Dis-nous un petit peu comment tu t'es fait embaucher à l'Opéra, donc à Paris. On ne dit pas lequel, mais voilà, il y a plusieurs. On va dire ça comme ça. Comment tu t'es fait embaucher à l'Opéra et qu'est-ce que tu y faisais? Et donne-nous un petit peu ce parcours-là à l'Opéra. Alors, comment ça s'est passé?
Eh bien, donc, après avoir traversé beaucoup d'univers différents, puisque j'ai eu l'immense chance dans mon parcours d'avoir des portes qui se sont ouvertes aussi bien dans les spectacles de danse, dans le théâtre, dans les concerts de musique de jazz. J'ai travaillé beaucoup sur du festival de jazz. J'ai travaillé aussi beaucoup sur les musiques du monde. J'ai travaillé en plateau de télévision. J'ai essayé un petit peu de percher. J'ai travaillé sur des directs. J'ai travaillé avec des cars régie lors de tournées. J'ai également enseigné. Après avoir fait tout ce parcours, en 2008, j'ai eu peut-être aussi un creux et puis peut-être qu'à un moment, on a envie de se poser. Et j'ai eu la chance que donc les responsables de service, donc les deux chefs de service à l'époque sont partis en retraite hein, dans un lieu dans lequel j'avais préalablement travaillé. Et donc dans ce lieu, il y a eu la volonté un petit peu au départ de renouveler la technologie et le matériel. Et je suis venue un petit peu apporter cette compétence. Et c'est une chose peut-être qui n'était peut-être pas suffisamment anticipée de ma part et de la part des dirigeants du lieu. Donc on peut dire que voilà, c'était un petit peu un petit poids qui arrive dans un univers peut-être un peu marqué d'abord par des valeurs viriles et peut-être plus traditionnelles. Donc ça a été un petit peu un clivage sur lequel il y a eu un peu de difficulté, on va dire. D'accord. Voilà.
Et donc les conditions de travail pendant que tu es resté là-bas plusieurs années, j'imagine, la première année avant de rentrer au CE, puisque vraiment tu es rentré au CE, voilà. comment se sont passées les conditions de travail? Est-ce que tu avais des rapports difficiles avec tes chefs de service, les hommes qui travaillaient dans la structure? Est-ce qu'il y avait effectivement... tu as fait des demandes, j'imagine, je parle évidemment effectivement du taille-crayon, c'est pas le taille-crayon, mais des choses que tu n'avais pas pour travailler et que tu as fait des demandes pour les avoir. Et puis apparemment, il y a eu une sorte de levée de bouclier. Comment ça s'est passé exactement
Mais en fait, c'était un petit peu surprenant parce que je me suis souvent dit, c'est la réflexion que je pose maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas davantage les passerelles entre les intermittents du spectacle et les permanents. Les intermittents n'est toujours vu comme étant des personnes dangereuses. Je dois dire que j'ai eu un immense plaisir de faire mon travail pendant des années. J'ai vécu avec le plaisir, c'est un mot tabou dans l'entreprise. Effectivement, je me suis retrouvée comme étant chef de service adjointe. Je n'étais pas le ou la chef de service, ça m'a été rappelé à plusieurs reprises. J'utilisais des termes qui étaient absolument incongrus. Voilà, le premier mot que j'ai dit, c'était « j'ai du plaisir ». Donc, effectivement, c'était très surprenant, j'utilise ce mot. Et puis, la deuxième chose, c'était de pouvoir me dire que je prenais des décisions, ou du moins, j'avais l'opportunité de penser, ce qui m'a aussi profondément choquée. Alors, je ne comprends pas comment, d'un côté, on demande à quelqu'un d'être extrêmement adaptable et qualifié, puisque quand on vient comme une intermittente, on vient travailler sur un contrat qui dure une journée, qui dure quelques jours, qui dure une semaine, qui dure quelques semaines. J'étais une vraie intermittente, je ne suis pas une permittente. Il y a des gens qui, pendant une saison, deux saisons, trois saisons, seront toujours sur le même espace. Ça n'a jamais été mon cas. Donc j'ai appris à me débrouiller, à trouver des solutions, et c'est ce que l'on m'a demandé. On m'a demandé d'être autonome. Voilà. Alors là, tout d'un coup, je rentre dans un lieu où, au départ, on me dit « oui, oui, bien sûr, il faut ouvrir », et au final, il faut surtout faire comme ça a toujours été fait au préalable. Donc il y avait, on va dire... des difficultés, mais c'est arrivé très rapidement. Alors c'était 9 mois pour obtenir un ordinateur, à peu près autant pour avoir une ligne directe. On a eu la chance dès le départ d'avoir un petit appui pour acquérir une petite console numérique pour pouvoir travailler en salle, parce que ma plus grande souffrance a été de me dire ça y est, à partir d'aujourd'hui je vais devoir travailler derrière une vitre, ce qui pour moi est insupportable, je fais du son. J'ai connu des régies, pour ne pas nommer les lieux, qui sont très connues sur la place de Paris, où les régisseurs de lumière travaillent sur des écrans vidéo. C'est-à-dire que tout ce qu'ils mettent en boîte, c'est manipulé, ou du moins c'est détecté par des gens qui se trouvent en salle, parce qu'à l'époque, on ne déportait pas les jeux. Hein. Maintenant, il y a des installations beaucoup plus légères, mais à l'époque, on ne déportait pas les jeux. Et donc, pendant des années, ils ont vu un spectacle sur lequel ils programmaient des lumières à travers un écran vidéo. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait partie des gens trop gâtés, où j'ai pu choisir en partie mes employeurs. J'ai surtout choisi quand je partais en formation, puisque quand on est intermittent, on a des droits à la formation qui sont rechargés chaque année. Et que là, tout d'un coup, tout devient un petit peu compliqué. On est dans des systèmes administratifs qui sont assez aberrants compte tenu d'une programmation où d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, tout change.
Alors, il faut préciser que c'est un EPIC.
Absolument.
On peut supposer qu'il y a tout de même les lourdeurs de l'administration. Je pense au fait de mettre plusieurs mois pour obtenir un ordinateur. Ça, c'était quelque chose qui t'était totalement inconnu auparavant ?
Non, je pense que en fait, alors là, je pense que j'ai péché par noviciat, c'est-à-dire que l'ancien chef de service adjoint n'avait pas d'ordinateur. L'ancien chef de service adjoint n'avait pas de ligne de téléphone fixe. L'ancien chef de service adjoint ne travaillait pas sur certains types de matériel. Voilà. Donc il a fallu sans arrêt que je défende la position qu'il fallait simplement s'ouvrir à ce qui se passait dans beaucoup d'autres lieux, que je suis désolée par la personne qui était partie préalablement, mais que les choses devaient simplement s'ouvrir, s'adapter et se mettre à l'actualité.
En même temps, il y a le poids de l'histoire, parce que finalement, je crois comprendre que l'opéra dans lequel tu travaillais remontait à très 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 longtemps.
Ouais, 100 ans, plus de 100 ans.
Ou largement plus.
Oui, mais enfin, faut pas exagérer.
Une institution.
Une institution dans l'institution.
Institution, ça c'est sûr.
Oui, alors bon, pour rigoler deux secondes, effectivement c'est un EPIC. Un EPIC, c'est-à-dire un établissement public à caractère industriel et commercial, est un espace donc qui est en mesure de pouvoir faire des rentrées d'argent qui sont autres qu'une simple billetterie, à la différence donc d'un lieu qui est simplement une association de loi 1901. Voilà, c'est la différence. L'autre chose, c'est qu'un EPIC est sur du droit privé. N'est pas sur du droit public. Donc là, de toute évidence, on est comme n'importe quelle entreprise assujettie à devoir suivre une réglementation quelle qu'elle soit. Donc s'adapter les conditions de travail, adapter les postes de travail à l'être humain, bien sûr, et surtout adapter à la programmation. C'est peut-être là, effectivement, où il y a eu beaucoup de difficultés à faire passer les messages.
Alors justement, comment s'est fait la passerelle pour arriver au CE? Et au CHSCT, alors, raconte-moi un petit peu le
comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise,
voilà.
Le comité hygiène et
hygiène
sécurité.
Hygiène et sécurité, c'est ça.
Donc, encore une fois, je pêche de nouveau par noviciat, puisque au bout d'un an d'appartenance à l'entreprise, une déléguée syndicale vient me trouver en me disant, écoute, est-ce que tu veux bien venir au comité d'entreprise? Tu veux bien te présenter aux élections? Puisqu'on a vu qu'au service son, ça bougeait. Et on voudrait bien que tu viennes nous appuyer dans nos demandes au CE. Alors, est-ce que tu veux bien te mettre sur les listes? Alors là, évidemment, grand émoi, puisque je ne savais absolument pas ce que c'était qu'un CE, à part d'aller chercher des billets de cinéma au FNAS. Alors le FNAS, pour les gens qui ne sont pas du spectacle, c'est la partie des activités sociales et culturelles pour les gens du spectacle. Hein, c'est un organisme indépendant. À part connaître l'endroit où je vais acheter mes billets de cinéma à 4 euros, je savais pas grand-chose. Et donc, je me suis présentée sur les listes. J'ai été élue. Et quelques temps après, donc je suis partie en formation et donc j'ai découvert qu'est-ce que c'était qu'une dupe, parce que dans cet espace, il s'agissait plus seulement d'un CE, mais d'une dupe. Dupe, ça veut dire délégation unique du personnel, qui regroupe en fait les délégués du personnel et les élus du comité d'entreprise. Voilà. C'est-à-dire que dans la réunion du comité d'entreprise qui a lieu chaque mois, une fois par mois, il y a en début de session donc la tenue de l'ordre du jour du comité d'entreprise, puis à la fin les questions diverses qui sont les questions des délégués du personnel. Voilà.
D'accord. Et donc ces élus, ils ont des délégations. Donc tu peux nous dire en quelques mots c'est quoi les délégations? C'est 2 heures par mois, 3 heures par mois? Les délégués du personnel, ils ont quoi, enfin, les élus?
Alors en fait, voilà, là c'est un petit peu, on va aborder le sujet un petit peu.
Qui fait mal en fait.
Ouais, un petit peu quand même, un petit peu quand même, parce que dans les différentes associations, enfin comités du moins représentants du personnel, il y a une énorme injustice en fait dans le temps de délégation qui est accordé aux élus. Le CE et les DP, les délégués du personnel, étant un peu les nantis, et avec quand même une dissociation dans les élus CE, puisqu'il y a les élus titulaires et les élus suppléants. Dans l'effectif qui est la plupart du temps l'effectif d'un lieu de spectacle qui dépasse les fameux seuils de 50 salariés, parce que je rappelle que pour qu'il y ait la tenue d'un CE, voire d'un CHSCT, il faut au minimum 50 salariés permanents.
Par entreprise.
Dans l'entreprise, absolument. Or, il s'avère que suite à une conférence, j'ai appris que 98% des entreprises de spectacle vivant en France avaient moins de 10 permanents dans l'entreprise. Ça donne vraiment l'image de ce qui se passe en France. C'est très important de dire cette chose. À la même image d'ailleurs que les entreprises françaises, puisqu'on sait que 98% des entreprises françaises sont des TPE et des PME. Voilà. Donc on est vraiment dans le schéma de ce qui se passe en France. Donc ces fameuses heures de délégation sont pour un seuil jusqu'à 100 salariés, au CE de 8 représentants au comité d'entreprise, oui. 4 élus titulaires qui ont droit chacun à 20 heures de délégation par mois, ça veut dire 20 heures durant lesquelles ils sont bien sûr rémunérés dans le cadre de leur fonction, mais ils peuvent utiliser ces heures, ils devraient utiliser ces heures pour mener à bien leur mission de élus du personnel titulaire. Et il y a 4 élus qui sont suppléants. J'étais moi-même suppléante. Je n'avais pas la chance à l'époque de disposer au CE d'un règlement intérieur. C'est-à-dire que depuis 2008, il y a au moins la possibilité d'établir un règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, il y a bien sûr la possibilité de stipuler entre les élus et la direction des conditions spécifiques. Comme par exemple, il aurait pu y avoir une clause qui permettait aux élus suppléants, d'avoir également un certain nombre de crédits d'heures.
D'accord. Alors justement, le CHSCT, donc là, c'est donc la sécurité et puis l'hygiène par rapport aux salariés. Hein. Est-ce que tu as, dans le cadre de cette mission, tu as vu des gros problèmes en termes de sécurité? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en quelques mots, si il y a eu des gros problèmes? Est-ce que les patrons ont bien tenu leur charge en mettant en place des trucs de protection des salariés, etc.? Ou c'était est-ce que c'était n'importe quoi et que t'as contesté des choses pour que les choses soient prises en compte et puis soient changées? Tu nous as parlé en micro d'un truc qui était tombé sur la scène, enfin, je ne sais plus. Enfin, tu peux nous en dire deux mots éventuellement?
Oui, bien sûr. Alors en fait, donc, un an après être rentrée dans l'entreprise, je me suis présentée, j'ai été élue au CE et j'ai effectué ce mandat pendant à peu près, je n'ai pas calculé, mais enfin, on va dire grosso modo 18 mois. Et lors des élections, de nouveau du renouvellement du CE, les élus du CE, enfin ceux qui se présentaient, ont fait un peu le choix. Parce que je rappelle que pour être présent au premier tour des élections du comité d'entreprise, il faut au départ être présenté par un délégué syndical. Hein. Et c'est simplement s'il n'y a pas le quorum, si le seuil n'a pas été atteint, qu'il y a un deuxième tour. Et dans ce deuxième tour, il y a des élections avec des candidats libres. Bien. Donc il y a une volonté des élus du CE de ne plus me présenter au CE, mais par contre de me demander d'aller au CHSCT. C'était au départ pas tout à fait une initiative volontaire. Et donc j'ai eu la possibilité d'être au CHSCT durant à peu près 9 mois, je crois, puisque j'ai fait l'objet de mesures répressives extrêmement violentes, très rapidement disciplinaires, absolument. Qui ont été absolument épouvantables, mais c'est pas le sujet immédiat. Donc là, pour l'instant, on est simplement en train de parler du CHSCT. Et donc, ce fameux CHSCT, effectivement, CHSCT, ça veut dire quoi? Ça veut dire comité, hygiène, sécurité et conditions de travail. C'est un comité qui était créé au départ, pas sous ce terme-là, par également les applications de 1945, mais c'est surtout Monsieur Jean Auroux, qui était le ministre du Travail sous François Mitterrand, qui a vraiment donné l'impulse de ces fameuses comités de représentants du personnel, CE et CHSCT. Et c'est à travers 4 lois piliers de 82, c'est-à-dire entre août et 23 décembre 1982, que vont être mis en place ces lois qui vont permettre aux représentants du personnel de fonctionner comme ils fonctionnent au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important, parce que je me suis aperçue que ça correspond exactement à la durée de vie de nos fameuses années intermittentes du spectacle, vie du spectacle vivant en France. Tout ça est parti en même temps, avec des choses bien sûr qui se sont adaptées et des choses qui ont été un petit peu plus lentes.
Très bien, je te remercie. On va écouter une petite chanson, ensuite on reprend la parole. Merci.
Quand Jean-Marie de Nantes revint de la Trinité, il déposa son sac aux pieds de son hôtesse, dans un bar pavoisé par toutes les promesses, le bistrot de Simone. Un grand coup d'innocence et plus rien n'aura d'importance.
Et oui, c'était toujours Pierre-Marc Orland, une chanson chantée par Frédéric, voilà, une bretonne ardennaise que nous connaissons bien dans cette émission, qui est là ce soir pour nous parler de son spectacle. Donc ça n'a pas d'importance, je crois que j'ai dit, il me semble. Voilà. Donc vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, émission des chômeurs et précaires. Nous parlons ce soir des conditions de travail d'une salle de spectacle, hein, d'un opéra. Voilà. Bonjour à toi, toujours.
Bonjour, bonsoir.
Voilà. Donc tu peux nous raconter un petit peu maintenant, s'il te plaît, comment se sont passées les conditions de travail pour les salariés. C'est-à-dire, il y a eu des accidents là où tu étais apparemment. Est-ce que des décisions ont été prises pour justement améliorer la sécurité dans le cadre de ta mission au CHSCT? Dis-nous un petit peu les accidents que tu as pu voir.
Alors effectivement, c'est toujours très délicat de revenir sur ces situations, parce qu'on va dire que c'est des situations a priori qui ne sont pas connues du public. Qui ne sont pas connues du public et qui ne devraient pas l'être. Nous sommes dans un art qui est l'art de l'artifice. On est sur l'art de l'illusion. Le public n'a pas à savoir comment se déroule le spectacle. Il n'a pas à savoir comment est créé même le spectacle, a priori. Donc de venir vous dire ce que j'ai vu, je peux témoigner de certaines choses, mais j'essaierai d'avoir de la délicatesse et je souhaiterais juste dire que je ne suis pas là pour faire de la délation ou du voyeurisme. Ce qui m'a paru important quand vous avez eu la démarche de venir me solliciter pour parler de ces choses, c'était plus d'essayer de comprendre pourquoi, lorsqu'on essaye d'aborder ces sujets en interne avec les personnes qui ont cette obligation de sécurité de résultat, c'est quelque chose d'extrêmement important, on soulève une telle tempête, on soulève une telle violence. J'ai moi-même été mise en cause dans des accidents, des choses qui ne me seraient absolument jamais arrivées à l'extérieur de cet espace, je tiens vraiment à le dire, et que dans la surenchère en fait de personnes qui veulent prendre des décisions et qui sont peut-être mises aussi à des postes sur lesquels elles n'ont pas exactement les compétences, il y a vraiment par moments des endroits où le non-dit peut-être est plus important que d'essayer de parler. Alors là, ce soir, vous me demandez exactement le contraire. Vous me demandez de dire les choses. Oui. Alors, je vais dire certaines choses, mais vous me permettrez de le faire avec, j'espère, un peu de douceur. J'ai vu des choses terribles, effectivement. J'ai vu des choses terribles, à savoir que lorsque l'artistique prend la main sur des décisions qui auraient peut-être dû être mieux anticipées ou qui auraient dû suivre un système de procédure. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert en rentrant au CHSCT, c'est que le CHSCT est une identité qui est extrêmement contraignante pour tout le monde. C'est contraignant pour les élus, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de 8 élus au CE. Pour le même seuil d'effectif de personnel, je rappelle qu'au CHSCT, nous étions 3. Dans les CHSCT, il y a 3 invités permanents, le médecin du travail, le contrôleur de la CRAMIF, c'est-à-dire de la caisse d'assurance maladie, et l'inspecteur du travail, et une personne de la direction. Très souvent, les rapports sont extrêmement inversés, puisque nous étions 3 représentants du personnel face à 6 personnes de la direction. Et le médecin du travail... Nous avons eu l'immense chance chez nous d'avoir un très bon relationnel avec le responsable de la caisse d'assurance maladie qui était présent, mais l'inspecteur n'est jamais venu. Ce qui veut dire que quand on prend parole, c'est extrêmement délicat. Voilà. Alors quand on est témoin d'accident, une des tâches du CHSCT, c'est de faire l'arbre des causes et de chercher à comprendre pourquoi l'accident s'est produit. Et de chercher surtout à comprendre le faisceau. Il ne s'agit pas d'attaquer la dernière personne sur le terrain, celui qui a eu le malheur ou pas d'appuyer sur le bouton. Il y a un ensemble de faisceaux qui fait que l'accident se produit.
Bien sûr.
Alors quand on parle des conditions de travail, moi je suis très surprise, avec le recul, de comprendre que nous sommes à un moment ou à un autre tous dans cette espèce de situation très malsaine, où certains salariés ou la plupart des salariés ne veulent pas trop aller faire les formations de mise à jour, les formations d'habilitation, parce que si on a la formation, alors on va avoir une responsabilité. Alors ça veut dire qu'on est sachant, alors ça veut dire que... et puis après tout, c'est le directeur qui est responsable. Bon, puis alors il y a le directeur technique qui est responsable. Bon, bref. Alors il y a une partie quand même des salariés aussi, et on le voit, c'est très difficile quand on est au CH de demander aux gens, gentiment ou plus ou moins gentiment, de porter leurs EPI. Est-ce que pourriez-vous porter vos chaussures de sécurité? Eh ben non, on ne vient pas au démontage, même s'il fait beau et qu'on est dehors, pieds nus. On ne vient pas décharger, même un kangou, on ne vient pas le décharger pieds nus. Ce n'est pas possible. Le flycase, il pèse 70 kilos quand même. Bon, bref. Donc voilà, mettre les gants, demander aux agents ou aux personnes de porter les harnais, demander aux personnes de porter des lunettes de protection.
Et le fait de faire ces demandes, ça t'a porté préjudice a priori alors
apparemment. Alors ça s'est passé encore plus joliment, puisque on a commencé par me convoquer pour non-port d'un EPI. Un EPI, c'est un équipement de protection individuelle, c'est-à-dire que l'employeur a l'obligation d'abord de chercher des protections dites collectives. Et il y a bien sûr l'obligation d'avoir des EPI. Les EPI, c'est d'abord les chaussures de sécurité, c'est des gants, c'est des lunettes, c'est un harnais.
Le casque éventuellement.
Absolument, c'est un casque. Il y a des EPI qui nécessitent une formation spécifique. Et dans mon cas, c'est très amusant puisqu'on a commencé par me convoquer pour me signifier que je ne portais pas d'EPI et que cet EPI nécessitait préalablement une formation que bien sûr je n'avais pas et que j'aurais dû être accrochée soi-disant à une ligne de vie qui n'était pas non plus installée par l'employeur. Voilà. Donc ceci a donné lieu par la suite à des accusations beaucoup plus graves. Et lorsque l'inspection du travail a été saisie, une des premières choses que l'inspecteur a demandé, c'était bien évidemment les bons de garantie ou du moins les tickets de caisse ou du moins la preuve que le matériel était entretenu. Donc on va dire que chaque étape qui m'a amenée devant l'inspection du travail, parce que j'ai dû me présenter plusieurs fois, a obligé finalement l'entreprise à évoluer. C'est assez surprenant que chaque sanction qui me soit attribuée ait donné lieu à une énorme progression en fait du traitement de la sécurité dans l'entreprise.
D'accord.
Alors, c'est-à-dire qu'en recherchant les causes de ton licenciement, c'est-à-dire l'entreprise s'est elle-même trouvée en face de ses propres contradictions, en fait, c'est ça?
Alors ça, c'était effectivement une partie. Et puis alors moi, je me suis mise seule en porte-à-faux parce qu'ayant fait ces habilitations, ces mises à jour, etc., j'ai demandé, en sortant de formation, bien sûr, à ce qu'on mette en pratique ce qu'on venait d'apprendre. Si on vous apprend le code de la route, a priori, c'est parce que vous apprenez une réglementation, vous allez apprendre essentiellement à la respecter sur le terrain. Or, bien évidemment, là, je me suis retrouvée en porte-à-faux avec absolument tous les échelons de l'entreprise, que ce soit les salariés, au-dessus, au-dessus de moi, que ce soit la direction, avec des gens qui avaient des pratiques qui n'étaient pas forcément les pratiques usuelles de ce qui était appris en formation. Voilà. Donc là, je me suis mise en porte à faux puisque tout d'un coup, je disais, mais attendez, on a appris ça. Donc on va commencer par acheter des colliers aux normes. On va commencer par mettre des élingues aux normes, etc., etc. Mauvais discours, de toute évidence.
Alors, quand est-ce que tu as été licenciée, en fait, de cette structure?
Laquelle fois?
La dernière fois.
Mais tu veux donc dire que tu as été licenciée et réintégrée?
Alors, je suis un peu taquine parce que je n'ai été licenciée officiellement qu'une seule fois, mais ils ont essayé à plusieurs reprises. Voilà.
D'accord.
Donc, j'ai été licenciée officiellement au mois de janvier 2012.
D'accord. Alors, comment s'est passé ce licenciement? Il y a eu des pressions? On t'a menacé? On t'a mis de l'alcool dans ton bureau? Qu'est-ce qu'on a mis sur toi? Voilà. C'est quoi les dénonciations calomnieuses dont tu as été l'objet? Parce que tu nous as dit hors micro que tu avais été à l'hôpital. Enfin bon, dis-nous un petit peu en quelques mots ce qui t'est arrivé après, alors.
Oui, ça a été terrible. C'est-à-dire qu'après cette histoire du fameux baudrier que je n'avais pas porté, j'ai eu une mise à pied qui a duré, je crois, 117 jours, avec une première tentative de licenciement qui a été refusée, puisque quand on est élu du personnel, on doit passer devant le vote du comité d'entreprise qui rend un avis. C'est pas lui qui décide que vous soyez ou non licencié, il doit émettre un avis. Donc j'avais à l'époque un avis défavorable du CE. Et donc je suis passée devant une première fois l'inspection du travail, sachant que lors de mon entretien de licenciement, il ne m'a jamais été dit exactement pourquoi je devais être licenciée. On me demandait d'expliquer quelles étaient les relations dans mon service. Bien. Donc je suis partie dans l'inspection du travail sans très bien savoir pourquoi on me licenciait. Et tout d'un coup, l'inspecteur du travail m'a lu la demande de licenciement, donc de la direction auprès de l'inspection du travail, puisque c'est l'inspecteur du travail qui autorise ou non le licenciement. Voilà, donc suite à ça, se sont enchaînés 4 avertissements. Et lors de ma lettre de licenciement du mois de... Une première décision a été rendue sur le deuxième licenciement en quelques mois auparavant, 6 mois avant. Et puis finalement, la direction a fait un recours gracieux et un recours hiérarchique. Et ils ont obtenu, les deux en même temps, tant qu'à faire, ce qui n'est absolument pas la procédure. Et là, effectivement, ils ont obtenu que j'ai effectué une faute puisque j'avais adressé 48 heures avant une nouvelle convocation pour licenciement, un mail à la direction technique, à la demande de la direction technique, pour demander à la direction de venir visiter les installations et de voir dans quelles conditions nous travaillons. D'accord. Voilà. Qui a été considéré par l'inspecteur du travail comme un acte d'insubordination.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Raphaël, d'être venu nous voir. En tout cas, tu reviens quand tu veux pour nous parler de la suite. Il n'y a pas de souci. Nous pourrons faire une émission avec toi. Il n'y a pas de problème. Donc, je passe maintenant la parole à Frédéric, chanteuse et comédienne, qui nous prépare un spectacle pour le 23 avril. Donc, ça se passe 158 rue Oberkampf, hein, métro Ménilmontant, à 21h. Donc, c'est 5 euros. Raconte-nous un petit peu ton spectacle, Frédéric.
Oui, alors là, c'est les tarifs.
Oui, c'est les tarifs.
C'est le spectacle.
C'est bien de commencer par là.
Ne se résume pas à ça quand même.
C'est vrai.
Voilà. Il y a des tarifs pour les chômeurs.
Oui, mais c'est 5 euros seulement.
Si tu veux l'entrée à 5 euros, je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup moins quand même. Hein. Alors bon, il faut quand même préciser.
Pourquoi Gaston Couté et Pierre Marcorlon?
Attends, on va faire dans l'ordre.
Vas-y, dis-moi.
Les tarifs, on va finir. Parce que
okay. Non, mais on va te laisser faire l'émission, nous on va y aller.
Vas-y Fred, je t'écoute. Alors, dis-moi les tarifs.
Il ne me connaît pas du tout, Fred. Bon. Alors, 5 euros, oui. On va vous demander dans un petit chapeau, je pense, un truc comme ça.
À la fin.
Au début.
Ne casse pas mon émission, toi, c'est une autre émission.
Alors, si vous voulez bien, on va juste parler de ça. 2 minutes pour que ça soit clair, parce que je pense que ça ne va pas l'être. Voilà, alors 5 euros. Et ensuite, alors avant de payer les 5 euros, il ne faut quand même pas oublier de dire aux gens, parce que c'est un petit peu la condition aussi par rapport à la co-réalisation avec le patron du petit lieu. Lui, évidemment, il souhaite qu'il y ait pas mal de monde et qu'il y ait des gens qui viennent manger avant.
D'accord.
Donc, voilà, donc je le dis parce que...
En fait, c'est repas-concert, quoi.
On peut faire dîner-concert, et c'est une formule un petit peu bizarre, parce qu'on ne sait pas trop, c'est pas vraiment dîner-spectacle, parce que dans ce cas-là, on demande un tarif global, et là, en l'occurrence, c'est séparé, voilà.
D'accord.
Donc vous pouvez manger, c'est très raisonnable, hein, les prix là-bas, hein. C'est pas du tout... C'est pas du tout friqué. Ça va, vous pouvez manger une petite salade, des plats, tout ça. D'accord. C'est bien, on y mange.
Alors j'avais
bien.
Mal, excuse-moi Fred, j'avais mal commencé l'interview.
Non, non, tu n'as pas mal commencé.
J'ai parlé des prix, alors j'aurais dû commencer par le projet. Alors pourquoi Marc Orlan et voilà, qu'est-ce que coûtait ? Alors dis-nous un petit peu.
Bon, alors je finirai de parler des tarifs après. Et alors, Marc on va y arriver. Ouais. Alors bon, pourquoi Marc Orlan et Gaston Couté ? Ben parce que d'abord, ça me plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, ça me plaît bien, voilà. Alors Marc Orlan, je connaissais déjà bien. Gaston Couté aussi, pour certaines personnes, n'est pas très connu quand même. Bon alors Marc Orlan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Quai des Brumes. C'est l'auteur du Quai des Brumes, hein, voilà. Et donc ce gars-là, on a l'impression qu'il est, on va dire qu'il est de l'époque de Prévert et tout ça, ce qui est vrai, mais il est également de l'époque de Gaston Couté, qu'on ne situe pas du tout à la même période. Parce que, pourquoi ? Eh bien parce que les photos qu'on a de ces deux gars-là, d'un côté Gaston Couté, qui est fringué genre 1900 avec... un petit peu de moustache et tout ça, la brigade du tigre, un peu. Et voilà, c'était pas un comique, hein, Gaston Couté, ouais. On pourrait le penser avec ce que je raconte, mais c'était pas vraiment ça. Et donc, voilà, c'est un poète paysan, et ça rejoint vraiment complètement le thème de l'émission, enfin de cette émission aujourd'hui, et d'habitude, puisque il n'était pas chômeur, mais il était... sans abri, on va dire. Parce qu'il était cheminot, quand même, Gaston Couté. Voilà. Cheminot, il ne travaillait pas à la SNCF non plus. Il allait par les chemins. Il était dehors, quoi. Voilà. Il était parti de chez lui assez tôt. Ça ne lui a pas trop réussi. Il est mort, il avait une trentaine d'années. Bon. Et donc, son pote, qu'il avait rencontré à Orléans, au lycée Potier d'Orléans, s'appelait Pierre Marc Orlan, enfin Pierre Dumarchais à l'époque. Et ce gars-là n'était pas du tout natif de la Beauce, comme Gaston Couté, qui était natif de la Beauce, lui. Il était né à Beaugency, si ma mémoire est bonne. Lui, il était natif de la Somme, Péronne. Voilà. Et donc, ils se sont retrouvés à Orléans, parce que, par les hasards, il était plus ou moins chaperonné par son oncle, Marc Orlan, voilà, tout ça. Et donc, ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école, les bancs... dans la cour des punis, on va dire, hein, en attendant d'être reçu par le censeur. Voilà. C'était une belle rencontre parce que c'était exactement tout le parcours de leur vie se résume à peu près à ça. Voilà, c'était des rebelles.
De turbulents.
Très, très turbulents et défiant l'autorité et tout. Et alors, tous les deux. Hein. Et tous les deux à leur façon, quoi. Voilà.
Et alors, Gaston Couté, il est resté pas mal pour des chants en patois. Enfin, pour des
ouais.
poèmes, des poèmes en patois.
Oui, il y a pas mal de patois, mais il causait bien la langue quand même.
Et tu vas chanter, des.
Il y a un truc ou deux, un petit peu en patois, mais je le fais plutôt en patois francisé. Hein. Mmh. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est les versions. Non, il est écrit aussi en bon français, et puis une partie en patois. Il y avait des textes en patois parce que ça sonne mieux en patois. Quand il parle des confitures, tout ça, c'est vachement bien en patois, quoi.
Oui, c'était une époque où c'était la langue parlée, mais bon, il fallait pas oui. forcément trop l'écrire. Et donc.
Oui, mais enfin, lui, il s'est permis, puis il a bien fait, et puis il a écrit également des textes. Et c'est très très bien écrit, hein. C'est très beau, très très beau. C'est un poète paysan, voilà, on peut appeler ça comme ça. Et Marc Orlan, que j'adore aussi. Ben, c'est...
Il paraît que Marc Orlan écrivait également des romans fantastiques, un peu d'aventure, tout ça.
Et des romans érotiques aussi.
Érotiques aussi. Ah.
Alors, est-ce que dans ton spectacle, il y a des choses...
Il
n'y
aura pas d'érotisme, non.
Non, est-ce qu'il y a des choses... est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en musique toi-même ou...
non,
donc tout est...
Si.
Ah.
Ben, si, une chanson.
Une
chanson de Gaston Couté qu'on va peut-être écouter d'ailleurs, j'espère.
Oui,
enfin, je ne suis pas sûre encore.
C'est laquelle?
C'est Ma vigne pousse.
Si tu peux envoyer, Claude.
Oui. Et puis on va laisser tomber les tarifs. Hein.
Alors, on va laisser tomber les tarifs. Il y aura le chapeau à la fin, voilà.
Très bien.
C'est pas cher du tout. On sera content de vous accueillir. C'est une création, donc venez nombreux.
Et donc, il faut rappeler que c'est le mardi 23 avril à 21h et que c'est au Café de Paris, donc 158 rue Oberkampf, au métro Ménilmontant. Et que les flyers, on peut se les procurer où? Parce que là, on a deux belles illustrations.
Il y a des, voilà, des petits flyers. Coupé, alors, que dire? Bon, je pense que je vais en mettre un peu à Publico. Mm-hmm. Voilà. Parce que, bon, voilà, c'est un petit rapport, hein, quand même. Gaston Couté était un poète libertaire.
Voilà, bien sûr. Oui. Très bien. Ben, alors pour finir, donc on finira cette émission sur une chanson de Frédéric. Hein. Merci en tout
d'accord.
cas d'être venu, Frédéric, pour nous en parler.
Un texte de Gaston Coupé.
Voilà. Donc cette émission se termine. C'est dur de se terminer avec vous deux, vous trois. Ah, j'ai encore 2 minutes. Ah, merci beaucoup, Claude.
On reviendra.
Ouais, on reviendra.
Oui, on reviendra.
Donc voilà. Donc on va quand même terminer, Claude, parce qu'on va écouter cette chanson. Donc cette émission se termine. Je vous remercie, mesdames, de l'avoir faite avec moi et avec Ludo, bien sûr. Merci, messieurs, dames,
merci,
de l'avoir écoutée.
Merci.
Chers auditeurs, auditrices,
n'oubliez
pas, voilà,
restez vigilants et surtout ne lâchez rien.
Voilà. Ne lâchez rien du tout.
Voilà, non, ciao. Non.
Bonne soirée.
Ciao.
Allons là, ma vigne pousse long là, c'est l'avenir. Cela, allons là, ma vigne pousse long là, c'est